Studio Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute de Studio Tamani, il est 8h à Bamako, la même heure à Bafoulabé. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le journal. Alors que le monde commémore demain 30 août la journée internationale des personnes victimes de disparitions forcées, plusieurs personnes restent introuvables au Mali, parmi eux des administrateurs civils, mais aussi des journalistes. Désormais une société de recherche et d'exploitation des ressources minérales au Mali, elle va s'appeler Sourem Mali. Ses objectifs sont la promotion, la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales. Le prix du gaz butane en hausse à Bamako, pendant que certains consommateurs regrettent cette situation, des ménageurs ont tout simplement suspendu son utilisation. Tout de suite les détails de ce titre avec Sekou Gadjigo, nous vous dira sur la mise en ordre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le syndicat autonome des administrateurs civils estime à 33 les administrateurs civils et leurs proches victimes de disparitions forcées de 1990 à nos jours. Certains d'entre eux sont toujours retenus en otage, mais la plupart ont perdu la vie dans les geôles de leurs ravisseurs. Des journalistes sont victimes d'enlèvements et disparitions forcées également. Il s'agit de Amadou Nialibouli, Moussa Diko, Olivier Dubois et Birama Touré. À l'occasion de la journée internationale des personnes victimes de disparitions forcées, Dramane Maïga nous fait le point.
Ali Cissé était le sous-préfet de Farako au moment de son enlèvement en 2019. Drissa Sanogo, quant à lui, servait à Gourmararous. Ce responsable administratif était le préfet quand il a été capturé par des hommes armés en 2020. En plus d'eux, certains administrateurs civils sont morts au service de la nation, déplorent leurs collègues. Le syndicat autonome des administrateurs civils a mené plusieurs actions en signe de solidarité pour les leurs, parmi lesquels des grèves successives. Ils ne sont pas les seuls. Depuis des années, les hommes de médias aussi sont victimes d'enlèvements dans ces zones de crise. Parmi eux, Hamadou Nialibouli, Moussa Diko ou encore Olivier Dubois. Toujours aux mains de leurs ravisseurs, ils ont été enlevés en 2020 et 2021. Le français Olivier Dubois, quant à lui, sa dernière apparition remonte du mois de mars dernier dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, les enquêtes sont toujours en cours selon les autorités dans l'affaire de Birama Touré portée disparue depuis le 29 janvier 2016. Rappelons qu'en fin février, suite à la libération de certains militaires aux mains de leurs ravisseurs, le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Camara, avait rassuré que les dispositions sont en cours pour obtenir dans un meilleur délai la libération de tous les otages sur le territoire malien.
Nous continuons d'y croire et d'espérer que nos confrères seront retrouvés très bientôt, déclare Bandiougou Danté, président de la Maison de la Presse. Il ajoute que le gouvernement est à pied d'œuvre pour les recherches, mais l'insécurité sur le terrain ne facilite pas la tâche, rappelle-t-il. Écoutons Bandiougou Danté, président de la Maison de la Presse. Il est joint au téléphone par Lalla Aïcha Walet Imfa.
Vraiment, n'est pas le seul journaliste disparu. Nous avons d'autres cas, comme le cas de Nialibouli, comme le cas de Moussa Diko. Il y a également le cas du français Olivier Dubois. C'est vrai que chaque fois que nous avons eu l'occasion, nous n'avons jamais cessé de parler de ces cas de disparition aux plus hautes autorités.
Est-ce que les autorités ont pris des dispositions pour la libération de ces personnes disparues?
D'une personne comme si, excusez-moi, c'est un animal qui était dans un enclos qu'il fallait aller chercher. Et nous continuons à croire à la sincérité et à la volonté des autorités à procéder à la libération de ces personnes. On fait des activités classiques de sensibilisation et de recueillement et ensuite de rappel.
8h04, vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Studio Tamani et son compte Twitter. La stratégie nationale de stabilisation des régions du centre du Mali et son plan d'action 2022-2024 ont été approuvés mercredi dernier au Conseil des ministres. Pour l'analyste politique Boubacar Boukoum, la crise que traverse le pays actuellement ne se limite pas seulement au centre et au nord. Elle est globale et il faut une réponse globale, dit-il. Boubacar Boukoum est joint au téléphone par Dramane Maïga.
Cette crise globale, sociale et sécuritaire, n'est pas à circonscrire en termes de centre nord ou sud. Il s'agit en réalité d'une crise qui est globale. c'est qu'aujourd'hui, dans cette stratégie, elle repose strictement sur la défense civile, beaucoup prise en compte par rapport à l'installation, les droits, les services sociaux de base. Et l'autre axe qui est important de noter, c'est qu'il y a l'axe aussi économique qui est pris en compte, c'est-à-dire le développement économique et social des différentes localités qui posent effectivement problème. C'est des raisons fondamentales pour lesquelles les gens quittent les différentes zones et que, quelque part, c'est l'insécurité économique qui, effectivement, donne l'opportunité au djihadisme souvent de recruter parmi ces communautés.
Je vous le disais dans les titres, le Mali dispose désormais d'une société de recherche et d'exploitation de ressources minérales, en abrégé Sorem Mali. Son projet d'ordonnance a été adopté par le Conseil des ministres du mercredi dernier. La recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales dans les limites des périmètres sont les objectifs de cette société. Les autorités précisent que le Mali a un vaste potentiel dans les domaines pétroliers et gaziers, couvrant une superficie de 900 000 km². Le reportage de Mamadou Samassi.
Le gouvernement affirme que la nouvelle société va au-delà de la promotion de la recherche faite par la DNGM, Direction nationale de la géologie et des mines, et l'Office national de recherche pétrolière. Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau.
C'est une société anonyme qui sera logée dans la même catégorie que les multinationales qui exploitent les sous-sols maliens et qui va pouvoir aussi lever justement des fonds, doter l'État malien aussi en devises parce qu'elle va directement exploiter aussi les ressources du sous-sol en vadant, mais qui va surtout permettre aussi d'accélérer quand même la valorisation du contenu local et des emplois locaux.
On a longtemps décrié cette situation, donc c'est une bonne chose que l'État crée aujourd'hui une société de recherche, déclarent les responsables de la Chambre des mines du Mali. Pour leur président Abdoulaye Pouna, l'or va finalement briller pour tous les Maliens.
Imaginez, moi je suis une compagnie, je fais par exemple mes activités, je vends mon or, c'est pour moi. Et au 31 décembre, je déclare à l'État que j'ai fait un bénéfice de 100 millions de dollars, alors que peut-être que j'ai fait un bénéfice de 1 milliard. L'État n'a aucun moyen pour contrôler ça. Est-ce que vous voyez? Nous, on a eu à crier ça à tort à travers, mais personne ne nous a écouté. Ça fait plus de 20 ans qu'on crie sur ça. Mais malgré tout ça, l'État quand même engrange 400 à 500 milliards. Donc ça veut dire que si l'État a contrôlé, ça fait combien de milliards? L'or va briller obligatoirement pour le Mali parce que la caisse est renflouée et c'est le bonheur du peuple.
Selon les autorités, avec 65 tonnes par an, représentant 70% des exportations, 25% des recettes fiscales, 10% du PIB, une contribution de plus de 500 milliards dans les recettes de l'État en 2021, l'or est le seul minerai réellement exploité au Mali.
Mamadou Samassekou, autre sujet de ce journal, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle a présenté jeudi dernier ses rapports d'études réalisés entre 2019 et 2021 au Conseil national du patronat du Mali. Pour l'organisation, ces statistiques permettront d'évaluer et de comprendre le marché du travail, notamment l'offre et la demande. Plus de détails avec Dramane Maïga, mais avec la voix de Lale Tangara.
Ce sont 4 rapports qui ont été présentés aux autorités par l'ONEF. Il s'agit entre autres de celui sur l'étude sur l'insertion professionnelle des sortants certifiés réalisé en 2019 et du rapport sur l'emploi auprès des ménages réalisé en 2020. Ces différentes études donnent un aperçu de la situation de l'emploi au Mali en 2020, selon l'Observatoire. Une des études de ces structures réalisées en 2020 indique que le taux de chômage de la population active ayant le niveau d'instruction supérieure est estimé à un peu plus de 32%. Ainsi, pour les responsables de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, les résultats mis à la disposition des autorités et décideurs permettront d'avoir des statistiques sur le taux de chômage et les compétences et qualifications recherchées par les entreprises, ce qui permettra de lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté, indique-t-il. Notons que cette lutte contre le chômage, selon les experts, passe aussi par l'orientation des jeunes vers la formation technique et l'entrepreneuriat jeune.
8h09 à Bamako. Parlons à présent de migration. 20% des candidats à la migration sont des femmes. C'est ce qui ressort des études d'experts. Selon Ousmane Diarra, président de l'Association malienne des expulsés, ce chiffre a été donné lors d'un séminaire tenu la semaine dernière à Bamako. L'objectif de ce séminaire était de sensibiliser et d'orienter les candidates sur les dangers liés aux procédures de l'immigration. des femmes. Ousmane Diarra, président de l'association malienne des expulsés, est joint par Abdoulaye Touré.
Le thème était les relations entre la migration féminine et la promotion de la femme. L'objectif principal est d'informer et sensibiliser les candidats à l'immigration, parce qu'on a dit durant ces deux jours, le premier candidat à l'immigration, c'était des femmes qui partaient accompagner leur mari. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a aussi des migrantes comme des hommes migrants. Tente est de sensibiliser, informer, aider, orienter ces femmes migrantes-là. En général, les femmes prennent 20% de la place de la migration. Parce que les migrants, les candidats, les vraies candidates sont à l'auteur de 10%, 15%. Et les migrantes qui ont accompagné leur mari sont entre 5 et 10%.
Autre titre de ce journal, le prix du gaz est en hausse depuis des mois. Les consommateurs déplorent cette situation. Certaines ménagères disent avoir tout simplement suspendu son utilisation à cause de sa cherté. Elles se rabattent sur le charbon et le bois de chauffe qui ne sont pas aussi accessibles en cette période hivernale. Les distributeurs du gaz butane annoncent toutefois une légère baisse de prix. Notre reporter Lala Aïcha Walet Imfa a fait un tour en ville.
C'est le ras-le-bol chez le consommateur face à la hausse du prix du gaz butane. Nous achetons la bonbonne de 6 kilos à 7500 francs CFA. Trop c'est trop, regrettent des usagers. À cause de cette cherté, de nombreuses ménagères ont arrêté l'utilisation du gaz. Elles interpellent les autorités sur la problématique.
Tellement cher que je ne l'utilise plus.
Cela fait des mois que je n'utilise plus. C'est à 7500 francs qu'on l'échange maintenant.
S'ils arrivent vraiment à diminuer, cela sera pour nous un ouf de soulagement.
Depuis qu'ils ont augmenté le prix, j'ai arrêté de l'utiliser.
Le prix du gaz a augmenté. Je ne l'utilise plus.
C'est trop cher. Le prix du gaz a vraiment connu une hausse.
De leur côté, les revendeurs reconnaissent la hausse, mais ils précisent que la faute ne les incombe pas. Toutefois, ceci indique qu'il y a eu une légère baisse au niveau de l'usine depuis le jeudi dernier.
Le prix du gaz a légèrement baissé. Aujourd'hui, la bouteille de 6 kg est cédée à l'usine à 5800 francs CFA. La grosse est à 13 000. Nous la revendons à 14 000 francs CFA.
La bouteille de 6 kg est cédée à 5800 francs CFA et nous la revendons à 6000 francs CFA.
La bonbonne de 6 kg est cédée à 7000 francs et la grosse bouteille est à 15 000 francs. Les prix diffèrent.
En plus du gaz, cette cherté des prix concerne les charbons de bois dont les prix varient entre 4500 à 6 000 francs CFA.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Le reste de l'actualité en quelques brèves en Songo, des inconnus ont tiré sur deux jeunes samedi soir à Djoulabougou. L'attaque n'a pas fait de mort, heureusement, mais l'un a été blessé au dos et l'autre à la cuisse. Les deux jeunes ont été évacués au centre de santé d'Ansongo. Il faut rappeler qu'il y a de cela une semaine, un jeune a été enlevé puis tué par des inconnus dans la même localité. 8 morts, une cinquantaine de blessés, dont 19 graves, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu samedi dernier à Badougou-Djoliba sur la route de Kangaba, selon la Direction Générale de la Protection Civile de Koulikoro. La Direction Régionale de la Protection Civile de Koulikoro, c'est un car de transport en commun qui est entré en collision avec un véhicule personnel. Les victimes ont été transportées vers les centres hospitaliers de Kati et le Gabriel Touré. Et à 8h passées de 13 minutes, je referme cette édition qui vous a été présentée par Sekou Gadjigo, mise en nom de Nohum Djiré. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site studiotamani.org ou sur la plateforme Viamo en appelant au 37 321. La campagne nationale de reboisement est en cours dans de nombreuses localités du pays. 17 millions de pieds d'arbres seront plantés sur toute l'étendue du territoire. Selon le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, cette campagne a lieu dans un contexte marqué par une coupe abusive de bois dans de nombreuses localités du Mali. C'est le cas dans le cercle de Yoroso où les populations se disent inquiètes face à la situation. Toutefois, les autorités locales tentent de rassurer. C'est le numéro de notre magazine Parlons de l'Environnement de ce matin. Il est réalisé par notre correspondant Ali Aïdara Ayourosso.
Le magazine Parlons de l'Environnement. La coupe abusive des bois inquiète ainsi de plus en plus des habitants du cercle de Yurusso. Sur le tronçon Kuri-Kemparana, il est difficile de ne pas remarquer les tonnes de bois et de charbon de bois entassés. Ils sont généralement transportés vers les régions de San et Mopti. Témoignage des habitants de ces régions.
Oui, j'ai constaté ces dernières années une augmentation de la coupe de bois et surtout de la vente de charbon dans le cercle de Yurusso sur le tronçon Kuri-Kemparana. Je pense que ce phénomène est quelque chose de très néfaste pour ma communauté. Et cela entraînera bien sûr dans les années à venir une grande sécheresse puisque c'est les arbres qui sont responsables de la pluviométrie.
C'est un phénomène que nous devons totalement abolir pour l'amélioration de notre environnement.
Auparavant, la pluie tombait pendant tous les 3 mois de l'hivernage. Mais aujourd'hui, vraiment, à peine on a de la pluie. Quand on coupe du bois, on ne plante pas de bois. Finalement, nous serons dans le désert.
Les responsables des services forestiers estiment que le phénomène a été accentué par le fait qu'il n'y a pas eu de culture de coton en 2020. Kassim Tchidoumbia est le chef du service des eaux et forêts de Yurusso.
L'exploitation ou la vente du bois et du charbon sur l'axe Karagorola jusqu'à Kimparana, ça relève du fait qu'il y avait deux massifs forestiers aménagés, le massif de Sakoni et le massif de Diarakungo. Et ce massif avait un plan d'aménagement avec une structure rurale de gestion du bois. Mais aujourd'hui, ce plan est caduc. Moi, je peux dire que ce qui a accentué le phénomène en 2021, c'est dû à la non-culture du coton. Les jeunes qui ne sont pas partis à l'exode se sont attachés vraiment à l'exploitation du bois et du charbon dans cette bande.
Les autorités communales, en collaboration avec les chefs des villages, disent avoir commencé à prendre des mesures pour lutter contre cette exploitation abusive des forêts. Brahima Goïta, maire de la commune de Kifosso, située dans le cercle de Yurusso.
J'avais pris une décision avec tous mes chefs de village de prendre des sanctions qui varient du degré de dégâts pour mettre fin à cette activité qui est la violation de la nature. Ce que je peux dire à nos populations, aujourd'hui, personne n'ignore les effets du changement climatique qui préoccupe le monde entier.
Le service des eaux et forêts encourage des techniques pour diminuer la quantité de bois à utiliser. Il demande aux exploitants d'éviter la coupe des espèces protégées et de procéder au reboisement. Kassim Tchidoumbia, chef service des eaux et forêts de Yurusso.
Sachant l'accroissement de la population, il est évident que les besoins en consommation de bois et de charbon s'augmente. Pour pallier à tout ça, je demande à la population, il faut exploiter dans les normes. Tout le monde ne doit pas être exploitant. Procédons au reboisement. Donc il faut que les gens aient le courage de planter. Épargnons les espèces à valeur économique de l'exploitation, telles que le karité, le néré, le baobab, le kapoki. Les feuilles améliorées permettent de diminuer la quantité excessive qu'on utilise pour une cuisson. C'est à ça seulement qu'on peut s'atteler afin de pouvoir réguler cette exploitation abusive.
Pourtant, beaucoup de campagnes de reboisement ont été organisées au cours de ces 3 dernières années. Pour le reboisement, cette année, des centaines de pieds d'arbres ont été plantés. L'ONG Joliba Environnement, en partenariat avec les agriculteurs du cercle de Yurusso, en ont planté plus de 100 000 pieds d'arbres. L'association des exploitants de bois de Kuri a aussi procédé à la plantation de plus de 400 pieds d'arbres dans la commune de Kuri.
Bon, à Yurusso, le reboisement, ça se fait, mais ça se fait rarement. Or, si on coupe les arbres, on doit les remplacer obligatoirement.
Bon, le reboisement ici à Yurusso, c'est une très bonne chose parce que vu de nos jours maintenant, les arbres en train de disparaître. Donc chaque année, on voit qu'il y a des milliers d'hectares qui sont coupés pour l'agriculture. Et cette année, nous, la jeunesse, on a jugé nécessaire à faire le reboisement au niveau des différentes parties qu'on a ciblées.
Le reboisement s'est fait à Yurusso à l'occasion de la Journée internationale des jeunes et des eaux et forêts. Ce reboisement s'est fait par des jeunes de Yurusso.
Les autorités de la localité estiment que ces arbres plantés doivent être protégés et suivis par les planteurs. De Yurusso, Ali Haidara pour Studio Tamani.